BFM sur 99.9. Vous êtes avec l'Actuality, émission de débat des lycéens. Nous sommes avec Sarah Maya, bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alexis.
Salut.
Bonjour Sarah aussi.
Salut tout le monde.
Ça va Sarah?
Bah ça va, ah, c'est mon tour aujourd'hui.
Oui voilà, aujourd'hui c'est ton tour.
Tu vas changer chaque semaine, c'est
voilà.
Cool.
Et bonjour aussi à Emma.
Salut.
Aujourd'hui on se retrouve donc pour un débat sur la fin de vie et c'est Sarah, à toi la parole.
Oh, j'étais pas habituée à la transition, désolée.
Alors sur la fin de vie, qu'est-ce que je peux bien vous raconter? Déjà, on peut commencer par se poser des questions sur une équipe médicale peut-être décider ou non d'arrêter les soins d'un enfant contre l'avis de ses parents, ou bien est-ce qu'un juge peut donner le feu vert à ce genre de décision contre toujours l'avis des parents. Le Conseil d'État a été saisi en référence au cas d'une adolescente de 14 ans, Inès, en coma végétatif à la suite d'un arrêt cardiaque en juin avec des lésions neurologiques irréversibles. Ensuite, il y a aussi des questions de société majeures pour lesquelles la loi Leonetti, dont vous nous parlerez plus tard, de 2005, a donné un cadre. Elle n'autorise pas l'euthanasie, mais a instauré la fin de l'acharnement thérapeutique, qui également définit et renforce le rôle d'une équipe médicale dans la prise de décision. Au niveau législatif, qu'est-ce que vous avez, vous?
pas trop étalé sur le sujet. Enfin... Donc il y a une loi qui existe, c'est la loi Onetti.
Leonetti, dont on vient de parler juste avant.
Là. Voilà, voilà. Et donc, bon, elle est composée de plusieurs articles, dont... Comment ? Donc, elle parle de l'obstination déraisonnable du corps médical et la prolongation artificielle de la vie du patient. Ces choses sont proscrites. Donc, on va dire que le corps médical et les médecins en général doivent respecter des faits, doivent baser leur raisonnement sur l'état d'un patient et le fait si on doit le garder en vie ou pas, donc sur ces lois.
Ouais, mais le problème, c'est à partir de quel moment on dit que c'est d'obstination déraisonnable. Je veux dire, en France, on n'a pas forcément le droit, en tout cas c'est très réglementé, le fait d'arrêter les soins d'un patient, sauf que c'est aussi interdit de les prolonger trop.
Oui, c'est ça. Après,
c'est le problème. Après, ouais. faut délibérer. Je sais pas trop comment c'est décidé, peut-être c'est marqué dans la suite de l'article.
Donc, il continue en disant que... Oui, alors... Désolé. Alors, le médecin peut prendre le risque d'abréger la vie du patient en lui administrant une dose de soins palliatifs, etc. Donc, ça continue sur le fait qu'il peut choisir de mettre fin à la vie d'un patient selon son état. Cependant, donc la décision de cesser l'administration d'un traitement lorsque le prolongé semble relever de l'obstination déraisonnable doit être collégial et ne peut être pris qu'après consultation de la personne de confiance, donc d'un proche du patient, ou alors en tenant compte des directives anticipées donc du patient, donc peut-être avant que celui-ci plonge dans le coma.
Ouais, si on avait déjà parlé avec ses proches ou un truc comme ça.
Donc, si on parle ça dans un contexte général. Aidez-moi.
En gros, c'est... On voit pas de quoi tu veux parler, donc on va finir ta phrase.
C'est compliqué. Enfin, si on parle donc d'obstination déraisonnable, c'est sûr que c'est très...
Déraisonnable.
C'est très vaste. Enfin, à partir de quand, de quel moment, on parle, donc, comme tu disais Alexis, d'obstination déraisonnable? À partir de quoi? Des mois, des années? Et ça a longtemps, donc...
Ça dépend beaucoup de l'état du patient à
oui,
la base,
voilà,
du
c'est ça.
Accident,
et c'est
etc.
Comme ça que c'est,
voilà.
C'est décidé.
Et c'est très difficile de mettre vraiment une date sur un article, sur des possibilités qui sont aussi vastes. Je veux dire, il y a plein de patients qui vont réagir plus ou moins au coma, qui vont bien conserver,
oui,
ou je sais pas comment on peut dire, quoi. Mais du coup, oui, dans les articles de loi, c'est très difficile à faire quand c'est...
Oui, c'est ça, quand ça consiste, les articles de santé, quand...
Quand c'est du cas par cas.
Oui, voilà, quand c'est du cas par cas, on peut faire des articles sur des phénomènes vraiment... qui vont toucher tout le monde pareil que là. Donc, comme tu dis, c'est vraiment du cas par cas. On peut pas savoir comment les gens vont réagir... comment dire ?
Face au coma,
oui, personnellement.
Ou
je veux dire, individuellement, voilà, c'est ce que je cherchais.
T'as du mal à trouver tes mots aujourd'hui. Hein.
Excuse-moi.
Après,
et donc, vas-y.
Non, vas-y, continue, c'est sur un autre truc.
Non, je disais, si je prends un exemple, donc un exemple très connu sur un débat, donc, enfin sur le débat de la fin de vie. L'affaire, donc, c'est Vincent Lambert, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je me suis un peu renseignée.
Ah oui,
donc, oui voilà.
J'ai
donc,
des informations sur lui.
D'accord. Donc tu veux en parler ?
Âgé aujourd'hui de 38 ans, il est hospitalisé depuis 2009 en état de conscience minimale. Sa femme et les médecins souhaitent interrompre le traitement et d'arrêter de l'alimenter et de l'hydrater, conformément à la loi Leonetti.
Ok, et donc c'est vraiment un exemple, on va dire un bon exemple.
Qu'est-ce qui empêche les médecins et sa femme d'arrêter les traitements ?
Je pense que c'est
l'autre partie de sa famille. En fait,
la
famille de ce patient est très divisée. C'est-à-dire que d'un côté, le corps médical et sa femme, donc il a des frères et sœurs, et quelques-uns de ses frères et sœurs veulent l'arrêt des soins. Seulement, de l'autre côté, il y a ses parents. Et d'autres frères et sœurs qui sont pour continuer. Donc, ils ont dû saisir la justice, ils sont allés au tribunal pour discuter de ce cas. Et je ne sais plus qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense
qu'au final,
qu'ils ont continué.
Il est toujours sous soins, et je pense que c'était l'été dernier ou il y a plus longtemps. Et du coup, j'avais vu un reportage où ils étaient en train de manifester devant l'hôpital parce que ce qu'ils voulaient arrêter l'acharnement médical justement sur lui.
Parce qu'encore, entre la famille et les médecins, moi j'aurais tendance à dire que c'est la famille qui a le dernier mot.
Bah oui, toujours.
Mais si la famille elle-même est divisée, c'est compliqué, quoi.
Ouais, c'est ça le problème. C'était ça le problème dans cette affaire, surtout. On peut penser que la famille pourrait s'entendre sur un tel sujet. C'est-à-dire que c'est quand même...
S'entendre.
Bah, c'est pas
avoir
s'entendre.
Des avis divergents sur la vie d'un proche et réussir à... Enfin, tu peux même pas trouver un compromis.
Oui, non, c'est sûr.
Quand il s'agit de sa vie ou de sa mort...
Je veux dire, enfin...
Il est pseudo-mort, au moitié en vie...
Quand je dis se mettre d'accord, c'est vraiment, enfin, c'est vrai que c'est une épreuve douloureuse où on peut ne pas avoir un avis objectif sur la question, et donc c'est pour ça que souvent on demande forcément l'avis donc des médecins du corps médical qui sont vraiment qualifiés pour dire si on peut arrêter les soins ou pas. Et donc, vas-y.
Du coup, moi en fait, je voulais savoir. Parce qu'il y avait une question.
Vas-y.
C'était quoi votre avis vous par rapport à ça, de manière générale
sur l'arrêt des soins?
Ouais.
Bah justement, moi j'avais une question en rapport.
Ah bah
c'est
dis
parce
donc.
Qu'il y a deux types, il y a deux un peu de méthodes pour abréger la vie d'un patient. Il y a soit les méthodes actives ou passives. Passive, c'est simplement l'arrêt des soins. Active, c'est genre l'euthanasie ou des trucs comme ça. Mon avis là-dessus, donc je réponds à ta question, c'est que à la place d'arrêter les soins, je veux dire, si on arrête les soins, il n'y a plus aucun
anti-douleur.
Il y a plus de chance, tu vois, par exemple,
oui,
si la personne est dans
fini.
Le coma, il y a plus de chance de la réanimer ou des trucs comme ça, donc c'est fini si on arrête les soins. Et pourquoi pas abréger les souffrances, parce qu'on sait pas ce que quelqu'un ressent quand il est dans le coma. Pourquoi pas abréger les souffrances avec l'euthanasie, sauf que l'euthanasie est interdite en France.
Alors tu parlais donc d'euthanasie qui est interdite en France, et d'ailleurs j'ai dû trouver une carte avec donc la légalisation donc de l'euthanasie en Europe. Et donc oui, donc l'euthanasie est interdite en France, mais il y a une autre forme qui existe, donc c'est l'aide à la mort comme c'est appelé, et donc c'est l'euthanasie passive. Et si on regarde à l'échelle européenne, il n'y a vraiment que dans deux pays où l'euthanasie est légalisée, donc aux Pays-Bas et en Belgique. Dans les autres pays, donc, la majorité est contre l'euthanasie, mais il y a en France par exemple, en Espagne ou encore en Allemagne, l'euthanasie passive, donc ça prend en compte vraiment
c'est l'arrêt des soins,
oui, vraiment exceptionnels. Par exemple, je lisais quelque chose qui disait, enfin, une loi qui avait été faite en prenant en compte l'état du patient, s'il souffrait vraiment énormément, si la souffrance était vraiment trop importante.
Oui, je pense que je l'avais vu aussi. C'était en fonction de l'état du patient.
Pardon.
L'état du patient, à quel point s'il souffrait ou non, il fallait l'avis du médecin de la famille, d'un autre médecin.
Oui, il y a plusieurs.
Il fallait aussi aller voir au cours de suivi. Enfin, c'était vraiment démarche juste pour arrêter les soins.
Si le patient va pas bien, si on arrête les soins, il ira encore moins bien avant de mourir.
Bah oui.
C'est ça qui est bête. C'est que si on veut pour un souci d'éthique ne pas provoquer la mort d'une personne, mais on veut bien le laisser mourir.
Ouais.
Je trouve qu'il y a un paradoxe là-dedans.
Oui, c'est vraiment un paradoxe éthique là-dedans.
Si on veut arrêter les soins parce qu'il souffre, on va pas le laisser souffrir encore plus.
Bon, maintenant je vais répondre à vos questions. Parce que bon,
vas-y.
On ne voyait rien dire depuis tout à l'heure. Déjà, je pense qu'il faut distinguer deux cas. Il y a le cas où le patient est conscient et le cas où le patient est inconscient.
Je pense que
dans le cas où le patient est conscient, il a un droit juste ultime sur sa vie et sa mort.
Mais conscient, dans le sens, il est éveillé.
Dans le sens, il est éveillé.
Ou dans le sens, il a toute sa tête.
Les deux.
Bah oui, faut avoir les deux. Mais par exemple, tu peux dire être conscient, genre il est pas dans le coma. Mais il va prendre des décisions dont il ne mesure pas l'importance. Et c'est ça le problème avec... Quand t'es patient, t'es malade, et pour le peu que la maladie touche tout ce qui est cerveau, etc., et te fait prendre des décisions dont tu ne mesures pas l'importance, là, je ne sais pas si on peut te laisser décider de ta vie, tu vois.
Ouais, mais dans ce cas-là...
Ça reste... Je pense que... Je pense que quand même, on est en train de dire qu'on donnerait moins d'importance à la vie sur sa vie ou sa mort d'une personne qui a des difficultés mentales qu'à une personne saine d'esprit. Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce que qu'une personne, elle soit malade dans le sens, elle n'est pas toute sa tête, une personne qui soit totalement consciente de ce qu'elle pense, je pense que même si elle ne mesure pas les conséquences...
C'est son choix.
Elle sait ce qu'elle ressent.
Et oui, si elle ne mesure pas les conséquences, effectivement, derrière, elle va mourir, peut-être qu'en fait, elle va se dire, merde, en fait, je ne voulais pas mourir. Mais je veux dire, c'est bête, une personne qui... Même une personne qui n'a pas toute sa tête, à partir du moment où elle dit, je ne veux plus vivre... Mais après, ça dépend si la personne, elle souffre physiquement ou pas, quoi. Mm-hmm. Si la personne souffre pas physiquement, je ne vois pas pourquoi on lui donnerait la mort. Mais si la personne, elle souffre physiquement, qu'elle ait sa tête ou pas, si elle veut arrêter de souffrir, c'est son choix.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça, que c'est vraiment avant tout à la personne qui souffre qui doit décider. Après... je pense qu'il y a aussi un peu plus que le fait que genre qu'il ait entre guillemets que toute sa tête ou pas, genre des fois quand on souffre beaucoup, eh ben on peut prendre des décisions hâtives, genre le nombre de fois où moi j'avais mal, genre vraiment très mal parce que je m'étais blessée ou quelque chose comme ça, et puis j'étais en mode, oh mais coupez-moi la jambe, j'ai trop mal, genre j'en veux plus de cette jambe, coupez-la, prenez-la, genre il y a aussi genre
juste
des fois
épiler les mollets en fait.
J'ignore la réflexion. Et du coup, genre, parce que des fois, ouais, aussi, sous la souffrance, on peut prendre des décisions qu'après on regrette, mais je suis d'accord avec toi, en fait, si le patient, même s'il dit ça sous le coup de l'émotion, il faut vraiment le prendre au sérieux, et personnellement, je pense que pour ceux qui prendraient ce genre de décision, il faudrait le suivi peut-être d'un psy ou tout comme ça, genre qu'il en discute bien, qu'il réalise.
Alors, première conclusion, prochaine fois, je te coupe la jambe, promis.
Conclusion, merci.
Je pense que ça dépend... Ouais, je suis d'accord, ça doit pas se faire à la légère. Forcément, oui, on parle de la vie de la mort. Derrière, il doit y avoir la vie des médecins, il doit y avoir la vie d'un psy aussi. Et même, il doit y avoir des entretiens, je pense. La personne devrait s'entretenir avec ses proches, avoir la vie de ses proches. Effectivement, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je pense quand même que le dernier mot va au patient. Oui, à la personne qui souffre, parce que personne, vraiment, n'a le droit de choisir pour une personne si elle peut vivre ou mourir.
Bah,
de toute façon, si une personne a envie de mourir, elle ira se tuer, elle souffrira encore plus.
Ouais.
Donc ça change rien de s'acharner à la laisser vivre alors qu'elle veut plus vivre.
Mais justement, si c'est une décision hâtive,
mais
sur le moment, elle peut dire...
Ça doit être pris après, en continu avec un soin derrière. Voilà. Je te parle pas d'une décision hâtive.
Franchement, je l'ai pas vécu, mais ça doit être difficile de parler de ça avec ses proches, avec un psy ou un truc comme ça.
Mais je pense
que faire toutes des démarches et parler à plein de monde du fait qu'on veut mourir.
Mais c'est
tu derrière un regard,
être, tu dois avoir dur. Tu dois avoir une raison aussi derrière. Je veux dire, si tu souffles martyr à longueur de journée et qu'il n'y a aucun médicament qui peut t'empêcher de souffrir, je pense que les proches peuvent comprendre que tu as envie de mourir.
Ouais, mais ça, par exemple, en France, tu peux pas.
Oui, en France, tu peux pas. France, mais de toute façon, on n'est pas en train de parler de ce qu'on peut en France ou pas. On est en train de parler de ce qui serait le mieux ou pas.
Oui.
La France est loin d'être au top de la perfection. Hein. Mais je pense que le dernier mot devrait aller au patient.
Moi aussi. J'en parlais d'ailleurs avant avec François, parce qu'on avait préparé un peu le débat. Et comme évidemment, moi je me décide à des études de médecine, après c'est mon avis, mais genre, je me dis personnellement, si jamais j'ai le cas d'un patient comme ça qui demande à ce qu'on abrège ses souffrances, genre c'est moi son médecin, donc du coup je dois respecter sa décision, parce que j'ai pas le droit de lui dire bah écoute, non, continue de souffrir, Inch'Allah un jour on va trouver un truc, tu vas vivre, t'en fais pas.
Après
c'est ça, enfin personnellement je trouve que c'est avant tout sa décision, parce que nous on sera jamais dans leur corps, on saura jamais ce qu'ils vivent, et si malheureusement ils décident d'en finir, on peut que respecter, Et après, je pense pas que ça aiderait vraiment le patient, que genre tout le monde soit derrière lui en disant non, mais tu le penses pas vraiment, machin et tout. Parce que souvent, quand on se met contre une décision de quelqu'un, bah la personne, des fois, ça fait que la renforcer dans son idée. Genre en mode, si vous êtes tous, genre vous dites tous ça alors que vous savez pas ce qui m'arrive, machin. Et si moi j'ai décidé de mourir, eh bah je mourrai. Et même si vous me dites tout ce que vous voulez, peut-être ça changera rien pour lui.
Je suis d'accord, et du coup la question peut même se poser avec les personnes qui veulent se suicider mais qui n'ont pas de souffrance physique.
Ouais.
Parce que est-ce qu'on devrait pas, je ne pose pas mon avis, mais est-ce qu'on ne devrait pas aider, comme on appelle l'aide au suicide en fait, des personnes qui veulent simplement mourir parce qu'elles n'en peuvent plus de leur vie, parce qu'elles veulent en finir pour des raisons morales, pour des raisons de famille. Est-ce qu'on ne devrait pas justement leur permettre de le faire?
Après, la plupart des suicides, des tentatives de suicide en tout cas, ça s'est arrangé après. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas dire à quelqu'un vas-y, finis, alors que peut-être 2 mois après ça aurait été mieux aller et elle aurait profité de la vie, tu vois.
Mais on peut pas, ça, le truc c'est qu'on peut pas savoir sur elle, mais en fait c'est difficile parce qu'on est en train d'en fait de se demander réellement à qui revient le droit de vie et de mort dans la société, quoi.
Ouais, c'est ça. Et genre oui, c'est comme ce que tu disais en fait, genre souvent quand il y a des tentatives de suicide ratées, après il arrive que des personnes aident la personne du coup qui a voulu se suicider et que genre du coup après ça aille mieux, genre à titre d'exemple, par exemple je vais prendre genre le Japon parce que c'est le seul que je connais, où genre il y a un endroit au Japon qui s'appelle la forêt du suicide. Je sais pas si vous avez entendu ce fait divers, oui, sur YouTube, ouais. du youtubeur américain qui est allé et qui a du coup filmé un cadavre et qui du coup genre pose la question, parce que cette forêt elle est connue genre dans le monde, c'est vraiment l'endroit où des Japonais viennent se suicider genre tous les jours limite. Donc après genre le gouvernement il est conscient de ça. Et est-ce qu'il fait vraiment quelque chose pour... est-ce qu'on aurait le droit, nous... Genre, imaginons, vous connaissez un endroit où vous savez que c'est là que les gens vont se suicider. Est-ce que vous autoriseriez à agir sur cet endroit? Genre, je sais pas, par exemple, le fermer pour dire « Ne venez pas vous suicider là » ou « C'est pas la bonne raison ».
Le fermer, c'est idiot, parce qu'une personne qui veut mourir, elle ira se tuer ailleurs. Mais de toute façon, en fait, c'est difficile aussi à concevoir, dans le sens où une personne qui va se suicider, selon la technique qu'elle va utiliser, soit elle va mourir direct, soit elle va avoir un grave accident et elle va pas réussir à mourir, et dans ce cas, elle aura sûrement des séquelles toute sa vie, et c'est encore pire que mieux. Soit, en fait, la personne va complètement se rater, va soigner, et derrière, va pouvoir, effectivement, peut-être... reprendre une vie normale qui va en fait se redresser, mais on peut jamais savoir, et donc le fait de ne pas savoir, on peut pas vraiment prendre la décision, en fait on n'a pas d'argument.
Ouais. Justement, tu parles du suicide raté en n'ayant que des grosses séquelles, que des séquelles graves. Il y a eu en France il y a pas longtemps, il y a la semaine dernière ou il y a 10 jours, une tentative de suicide aussi. Donc le mec saute d'un pont, il raterrit et il meurt pas, sauf qu'il a voulu se jeter sous une voiture et cette voiture était une ambulance.
Désolé
pour le petit fait divers.
Du coup, oui. L'ambulance l'a ramené à l'hôpital, ouais. L'a soigné, il va bien. Le problème, c'est que s'il a des séquelles, forcément, il n'aurait pas voulu survivre.
Ouais, bah oui.
Et c'est ça le problème, oui. Qu'il faut. Ouais, c'est ça la question qu'il faut se demander, c'est est-ce que ça va aider la personne
de vouloir la sauver.
Ouais. Mais on est obligé, après.
Bah voilà.
Ça.
Le problème, c'est aussi qu'on est obligé d'aider des gens.
Parce que
sinon, non assistance à personne.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, après, nous, on tombe dans un délit si on n'aide pas la personne. Mais après, genre, au niveau éthique, si, genre, imaginons, vous connaissez les techniques de premier secours, que vous voyez quelqu'un qui est en train de mourir devant vous, il vous supplie de ne pas l'aider. Là, vous serez face à un cas de conscience. Est-ce que je l'aide? Parce que sinon, je suis en infraction. Ou est-ce que je le respecte,
même pour la conscience,
pensée.
Pour bah pas oui. Se dire qu'on a laissé quelqu'un mourir, c'est horrible de te.
Mais
de
ça,
vivre
c'est vraiment
ça
genre
le...
un cas de conscience énorme. Genre, c'est vraiment la société vs ce que la personne veut. Et personnellement, malheureusement, je pense que la société m'effraie plus que.
Je crois que personnellement, c'est même pas la société, c'est juste
ça, genre, c'est...
se dire.
Ouais, c'est après, c'est la conscience.
C'est voilà, c'est la conscience. Pas, se dire qu'on a laissé quelqu'un mourir alors qu'on pouvait faire quelque chose. Avoir ça sur la conscience,
non,
ça doit
pas,
être super
ça.
Dur.
C'est horrible, ça.
Et pourtant, pire, cette personne, c'était son choix, quoi.
Ouais.
Mais ça, t'as beau te le dire, t'as toujours le poids, en fait.
Bah oui, tu te diras toujours, j'aurais pu l'aider, même s'il me suppliait, ça se trouve, j'aurais... En fait, il y a toujours les « et si », tu vois.
Ouais, c'est ça.
C'est aussi ce qu'il y a, genre, pour revenir au stop de traitement. Genre, quand la personne n'est pas consciente et que la famille s'y oppose, c'est toujours le petit « et si, genre il garde l'espoir, un jour il se réveillera sûrement, donc n'arrêtez pas les traitements ». C'est aussi ce qui rend la décision très compliquée, surtout quand il ne s'agit pas de toi, mais de quelqu'un d'autre.
Et par contre, je voudrais rajouter quelque chose par rapport au suicide, parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser. Il y a plusieurs études qui sont sorties qui montraient qu'en fait, la tendance au suicide était génétique. C'est-à-dire qu'on essaie avec des gènes qui influençaient ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, génétiquement parlant, sont plus enclins au suicide que d'autres. Et ils vont être plus enclins à la dépression.
Oui, voilà, c'est surtout avec la dépression.
C'est la dépression, mais la tendance au suicide derrière.
Il y a pareil pour les hormones du plaisir, etc.
Oui, il y en a beaucoup. Le bonheur, par exemple, c'est de la même manière.
Les cours de philo, le retour.
C'est pas de la philo, c'est de la biologie. Oui. Parce que c'est de la génétique. Il y a des personnes qui sont plus aptes à être heureuses et d'autres plus aptes à être en dépression.
Merci Sarah. Bon, je propose de faire une petite pause maintenant. Et on s'écoute Johnny, quelque chose en nous de Tennessee. A tout de suite sur PFM 99.9.
Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli. Avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. Une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
On se retrouve sur PFM 99.9 pour un nouveau débat, tout de suite sur la fin de vie. Nous sommes toujours avec Sarah. Bonjour Sarah Maya.
Merci, bonjour François.
Bonjour Alexis.
Toujours là.
Bonjour Sarah.
Pareil.
Enfin, normalement, je devrais dire re. Hein. Re.
Bah
Emma.
Oui, re. T'as eu droit au re.
Ouais, bah, t'as eu droit au re.
Tu prends même pas la peine de te dire bonjour.
Tu sais, c'est même pas bonjour, c'est vraiment re. Il y avait la flotte. Voilà.
Donc.
Sarah, je t'en prie, finis ta phrase.
Oui. Ouais, parce que tu m'as un peu coupé en plein milieu en fait.
Oui, bah oui, mais je suis désolée, mais à un moment donné, il faut quand même.
Tu vas
après cette belle musique, j'aimerais finir ma phrase. Ouais, du coup, je disais le fait que les personnes soient plus enclins au suicide au niveau génétique, c'est quelque chose qui peut pas forcément se combattre. Et du coup, bah, ça rajoute un argument qui fait que bah, quand une personne a essayé de se suicider, même si on la sauve, derrière, elle va peut-être quand même vouloir se ressusciter en fait, puisque c'est un peu génétique. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, le problème, c'est que moi, je t'ai répondu pendant la...
Bah, vas-y, réponds-moi la même chose.
Bah, du coup, ouais, ce que j'allais te dire, c'est que même si je suis vraiment une fille de science, donc du coup, si tu me dis que c'est scientifique, vraiment, je vais te croire. Mais pour des trucs aussi, je sais pas, je veux dire, un peu moral, entre guillemets, comme le suicide, tout comme ça, il y a des cas où la personne rate son suicide et s'en sort très bien après. Donc après, est-ce qu'on peut vraiment donner l'aspect biologique, en mode c'est écrit sur mon carnet de santé, je suis plus apte au suicide, donc si j'essaye, ne m'arrêtez pas parce que je vais recommencer.
Le problème, c'est qu'on sait jamais, on sait pas ce qui se passe après la mort, on sait pas ce qui se passe si on la laisse vivre.
Bah ouais, voilà, c'est ça.
On sait pas quoi.
Ouais. Emma, ça va?
Oui, ça va très bien. Je suis en train de réfléchir à tout ce que vous dites en fait.
Et tu en viens à quelle conclusion?
Je ne sais pas moi. J'ai pas fini. Oh là là, ça va rester.
Parce que moi, tu veux pas mourir parce qu'on sait, on veut pas avoir le dilemme si on te sauve ou pas.
Non, vous inquiétez pas.
Je propose que non.
Je suis bien.
En tout cas, on sait que toi, on te sauvera pas. Hein.
Moi, je vous propose de mettre un peu dans la peau de vous mettre un peu dans la peau d'un médecin. Qui en
je
fait
pensais
de...
dans la peau d'un suicidaire, ce
non. Ouais,
qui m'a fait peur.
Moi aussi, alors... je me suis dit, ok.
Alors, vous voyez la fenêtre? Non.
Alors, vous fermez les yeux, vous voyez le pont.
Maintenant, il voit pas, puisqu'elle ferme les
yeux. J'avoue, t'es bête, toi. Non, il voit la lumière.
Mais s'il vous plaît.
La lumière alors, au bout du tunnel. Du coup, dans la peau d'un médecin.
Et donc, vous êtes en face des parents, qui, dont la fille ou le fils a eu un grave accident. Du genre Vincent Lambert par exemple.
Je croirais dans nos exos d'SVT.
Non, mais, seulement.
Non, mais non, mais là, là.
C'est pas de l'SVT.
Là,
première question, alors.
Mais non, mais là.
Faites le diagnostic.
Les parents veulent pas abandonner leur fils ou leur fille. Vous faites quoi? Vous savez qu'il est condamné, quoi. Qu'il va rester. Il pourra plus jamais être en contact avec personne.
Bah, t'arrives, tu dis. Bon, bah, les esticots, ils auront plus faim.
Ah oh, non, oh, arrête, dis pas
voilà.
Ça. Hein.
Sarah, mais ouais, tu une bonne opinion. Médecin, toi,
ouais.
Non, non.
Moi, j'ai une bonne opinion là-dessus.
Que non, je voulais... t'as une opinion. Il n'a pas de bonne opinion.
J'ai une opinion propre à ce que j'ai vécu. J'ai rien vécu de spécial dans ma vie, mais c'est pas grave. Personnellement, si je suis médecin, que mon patient, je sais qu'il ne s'en sortira jamais, mais que là, il est en soins intensifs et que sa famille ne veut pas, en tant que médecin, il est de mon devoir de leur expliquer, en évitant un peu le jargon médical, parce que je sais que quand tu donnes des termes que les autres ne comprennent pas, tu les effraies un petit peu, mais je leur dirais, bon écoutez, voilà ce qui se passe pour votre fils, voilà ce que dans l'état dans lequel est son corps actuellement, l'état dans lequel nous le maintenons passe pour qu'il soit en vie. Après, personnellement, je vous dirais que il faudrait peut-être songer à le débrancher, mais là, la décision finale vous appartient. Moi, en tant que médecin, je ne peux que vous faire la liste des choix qui sont à votre portée. C'est tout ce que je pourrais faire. Personnellement, je n'irai pas m'impliquer et leur dire « il faut que vous fassiez ça ». Je leur laisserai vraiment le libre choix.
En fait, ce qui est embêtant dans ce genre de cas, c'est que quand les personnes s'acharnent comme ça, elles ne peuvent pas faire leur deuil.
Bah ouais.
C'est ça le problème. C'est que, en fait... Un deuil, c'est long, il y en a qui s'en remettent jamais, hein. Mais quand on fait son deuil, on passe à autre chose, on continue de vivre. Quand on est dans un deuil, en général, on voudra, bon, ça dépendra, mais on voudra plus de contact avec l'extérieur. Mais quand on est dans un deuil de quelqu'un qui en fait n'est pas mort, mais quand même pas vivant, c'est compliqué.
C'est
quoi.
Encore
on
plus peut difficile,
pas,
je pense.
On ne sait pas quoi penser. Et c'est surtout qu'on est dans une phase de transition qui ne s'arrête pas tant que la personne n'est pas réellement morte. On peut pas faire notre deuil, ce qui veut dire qu'on peut pas faire
réellement vivante.
Ou réellement vivante. Mais là, on parle d'un cas où la personne est vraiment condamnée. Donc, dans ce cas, je veux dire, la personne, elle va rester sur une transition qui va la faire souffrir tout le temps où elle voudra pas laisser l'autre partir et passer à autre chose.
Mais après, je pense que c'est pareil si on débranche la personne sans vraiment le consentement des parents. Parce que, genre, c'est comme tu dis, en fait, on est dans une transition, mais si la personne est débranchée alors que les parents étaient, genre, toujours contre...
Avaient de l'espoir.
Et ouais, et bah du coup, ils se diront, bah, ce médecin m'a pris mon fils parce qu'il y aurait eu une possibilité.
Oui, moi, je pense que c'est ça.
Il y aurait eu une possibilité, genre, on l'a tué, ou alors on vivrait toute notre vie en se disant, il est mort... Mais si ça se trouve, j'aurais pu le revoir. Enfin, il aurait pu s'en sortir, mais je le saurais jamais, parce qu'il est mort maintenant. Et personnellement, je trouve que ce serait encore plus dur de faire mon deuil, sachant qu'on l'a débranché sans mon consentement, parce que je resterais toujours avec mes et si ça se trouve, et si, plutôt que de venir voir la personne tous les jours en soins intensifs, alors que c'est un légume, quoi.
Mais si c'est toi qui l'as décidé, je crois que c'est pas forcément mieux.
Si,
parce que à partir du moment où la décision vient de toi, c'est quand même que tu y as réfléchi.
Bah oui,
ça veut dire que tu as fait ton choix. Oui, les six sont
toujours là.
Mais tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose parce que tu te dis, bah oui, il aurait pu peut-être il y avait une chance sur un million qu'il vive, peut-être, mais j'ai décidé de le laisser partir pour profiter du reste de vie que j'ai moi, et je le reverrai peut-être ailleurs, parce qu'il y a aussi des si sur ce qu'on vivra après nous-mêmes. Donc oui, t'as toujours ces si, ils disparaissent pas, mais en même temps, là tu peux tourner la page, que si, et tu peux vraiment passer à autre chose, tandis que si c'est le médecin qui prend la décision, et ben là tu vas jeter la faute sur le médecin,
ouais, voilà, c'est
tu vas jamais t'en remettre, parce que tu vas te dire, en fait c'est sa faute, s'il est mort, aurait pu vivre, et comme c'est pas ta décision, tu vas dire, et là tu tourneras pas la page, parce que tu vas rejeter la faute sur quelqu'un, et du coup dans ton esprit, ça va rester une place pesante, en fait. Que si tu fais ça, que tu le laisses passer, et bah, c'est juste que tu le prends différemment. Bah, tu fais réellement ton deuil. Tu peux pas faire ton deuil si t'es totalement en colère contre une personne sans arrêt à cause de la mort de quelqu'un. Alors qu'en fait, elle aurait pris sûrement la meilleure décision. Ouais. Mais tu peux pas faire ton deuil si t'es en colère, dans une colère qui te fait penser sans arrêt à sa mort.
Après, le truc, c'est que la décision du médecin, c'est un peu lui qui sait ce qui est bon pour le patient. C'est ça le problème.
Oui, mais c'est son rôle de l'expliquer au patient, pas de choisir.
Ouais, pas au patient ou à l'entourage. Parce que le patient,
là, on parle du patient et pas conscient. À l'entourage.
Ouais, l'entourage, ouais. L'entourage, ouais. L'entourage, ouais. Pas conscient.
Ouais, l'entourage.
Ouais, mais l'entourage, écoute pas forcément. L'entourage, par exemple, comment tu veux dire à des parents qu'il faudra enterrer leur enfant? Je veux dire, c'est horrible. En tant que parent, tu peux pas accepter ça.
Ça se fait bien sûr pas du jour au lendemain, mais...
Bien sûr, mais...
Non, mais je comprends les parents qui refusent ça, parce que, je veux dire, en principe, c'est l'inverse. C'est pas les parents qui enterrent leurs enfants, et franchement, ça doit être... Je sais pas, je sais qu'à leur place, je pourrais pas non plus.
Non, mais c'est normal, personne pourrait voir mourir ses enfants, mais pourtant, malheureusement, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Et cette situation, je pense que les parents... finirait par comprendre de toute façon que c'est mieux pour leur enfant, puisque c'est toujours ce qu'ont voulu les parents, en fait, pour leur enfant. Et je pense qu'ils finiraient quand même, alors ça peut prendre des mois, ça peut peut-être même prendre des années, mais je pense quand même que les parents finiraient par laisser partir, quoi.
Vas-y, je te laisse parler, ça.
Oui, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, parce que je suis complètement d'accord avec toi et avec Alexis en disant que...
Wow.
Ouais, c'est rare. En disant que, genre, en tant que parent, ce serait très dur de dire il faut qu'on débranche mon fils et tout, il va mourir, machin. Et du coup, c'est là que selon moi, le rôle du médecin est le plus important, c'est vraiment là. C'est à ce moment-là qu'en fait, le médecin, même si ça peut briser les cœurs de certains, en fait, il doit vraiment avoir un regard neutre sur la situation, en expliquant vraiment de la manière vraiment la plus neutre possible, voilà ce qui arrive actuellement à votre enfant, voilà les solutions qu'on peut vous proposer, voilà ce qu'on peut vous proposer. Si on vous propose ça, il se passera ça. Si on vous propose ça, il se passera ça. Et vraiment, genre, pas que la famille, ils sentent qu'il y a la pression médicale aussi, en mode, il serait temps que vous preniez une décision, il faudrait songer à le débrancher, êtes-vous sûr qu'il sera machin, en fait. C'est là vraiment que le médecin, il doit vraiment savoir faire la part des choses pour pouvoir aider la famille.
Et là, on parle de... En prenant l'exemple comme ça, de la réaction des parents face à la mort possible de leur enfant, je me suis posé une question, j'ai réfléchi pour une fois.
C'est rare.
Je me suis demandé... Si par exemple, il y a un enfant de 15 ans qui est comme ça, qui a des gros problèmes et que ses parents décident de le laisser partir, en fait. Et qu'ils ont, par exemple, et que le gosse qui est mort, il avait genre un petit frère de 3 ans. qui du coup va pas se souvenir de lui.
Ouais.
Est-ce que les parents racontent à leur, à leur petit que, leur, que son grand frère, il est mort, il a été à l'hôpital, ils ont décidé de le débrancher, ou est-ce qu'ils lui disent pas ? Je crois que ça doit être une décision dure à prendre quand même.
Bah, je pense que ça se dit, mais je pense que ça se dit pas tout de suite. Un oui. enfant de 3 ans, il n'est pas en âge de comprendre réellement ce qui se passe. Un enfant de 3 ans n'a tout simplement pas la notion de vie et de mort.
C'est ça, mais le problème, c'est que si tu as grandi 10 ans en pensant par exemple que tu étais fils unique et qu'on t'apprend qu'en fait...
Non,
tu peux dire, je pense qu'il faut vraiment le dire. Ça va
je pense que tu peux
le
dire.
Et à la confiance, désolée, mais... Enfin,
oui, t'as raison, ouais, Emma, vas-y.
C'est juste que j'ai je finis juste sur un exemple concret. J'ai rencontré quelqu'un il y a une semaine, donc on a fait connaissance, etc.
J'ai montré...
Voilà, si elle avait des frères et sœurs, etc. Elle m'avait dit, oui, j'ai 2 sœurs et j'avais un frère. Donc je lui ai dit, ah, bon. Et puis donc j'ai deviné qu'il s'était passé quelque chose. Et elle paraissait donc forcément triste. Elle m'avait dit que, ouais, j'étais petite, donc je ne l'ai pas trop connue. Mais au moins... elle avait connaissance de l'existence de son frère. Donc je pense que c'est vraiment important pour son développement et pour la confiance qu'elle peut avoir, qu'elle doit avoir avec ses parents, que ses parents lui disent qu'elle avait eu un frère.
Moi je suis d'accord et je veux dire, vaut mieux grandir en se disant bah, j'ai eu un grand frère et peut-être même avoir cette image du grand frère qui veille de là-haut et qui est avec nous, ouais. plutôt que de grandir dans l'ignorance en fait, parce qu'en plus ce genre de tabou, ma mère est psy, elle me l'a dit plein de fois, ce genre de tabou ça reste sur la conscience même sans le dire. Et en fait je pense qu'il vaut mieux dire à l'enfant qu'il a eu un frère. Mais pas expliquer forcément la manière dont oui. il est mort. Ça vient plus tard,
très
justement.
Sarah, je suis d'accord, oui, c'était juste pour conclure et dire que quand j'étais en primaire, en fait, j'avais une excellente amie qui, genre vraiment, on était en primaire, hein, genre en CE1, un truc comme ça. Elle me disait, bah oui, en fait, j'ai des frères et sœurs, machin, et j'ai une grande sœur que je n'ai jamais connue. Ma mère m'a dit qu'elle était morte avant que je naisse, et du coup, je ne l'ai jamais connue. Elle savait, elle était consciente d'avoir eu une sœur, et du coup, elle la respectait énormément. C'est-à-dire que, genre, comme j'ai grandi dans une école catholique, à chaque fois au moment où on nous apprenait à faire la prière et de la dédier à quelqu'un, elle la dédiait à sa sœur, parce qu'elle était toujours, elle était consciente d'avoir quelqu'un là-haut, comme tu dis, quelqu'un là-haut qui la surveille, en fait, une figure fraternelle qui la surveille.
Merci, Sarah.
De rien.
Donc, merci à toutes et à tous pour ce débat sur la fin de vie. Et donc à la semaine prochaine sur PFM 99.9 avec toujours la même équipe, toujours le même débat. Salut.